Elle est symbolique, hein. Elle représente pour les Africains et pour le monde occidental la première Africaine, comme vous le savez, à être présidente. Et ça veut dire à la fois que si c'est symbolique, c'est que son action est très limitée par la présence de forces militaires importantes qui assurent la sécurité. Et tout dépend au fond de cette question qui est gérée un peu par l'extérieur plus que par les Libériens.
Quelle est sa marge de manœuvre vis-à-vis de ces forces armées étrangères?
Elle est arrivée un peu dans les fourgons de cette force armée étrangère. On peut prendre la métaphore un peu de la marmite et du couvercle. Qu'est-ce qui va se passer quand ces forces se retireront? Il est à craindre que si la situation économique n'est pas stabilisée, les factions armées reprennent l'activité. Alors tant que la MINU, la force des Nations Unies pour le Libéria, est là, avec les crédits internationaux, la reconstruction de la capitale d'abord puis du pays peut se poursuivre. Mais il reste quand même un grand point d'interrogation sur le post-conflit, sur la moyenne durée, disons.
Alors justement, où en est la reconstruction du pays qui peut conditionner l'avenir du Libéria?
Il faut dire qu'on est parti d'une situation, si vous voulez, en dessous de zéro. Quand j'étais dans la capitale Monrovia, j'avais jamais vu une capitale où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas d'électricité, où les routes et les ponts et les édifices publics avaient été bombardés. Donc on part de là, c'est-à-dire d'une capitale quasi détruite avec des centaines de milliers de réfugiés. L'action de la communauté internationale s'est bornée à rétablir, par exemple, l'eau et l'électricité, et encore pour une partie de la population, plutôt pour le centre de la capitale. Et ensuite, à s'étendre un peu en tache d'huile, un peu loin, à reconstruire les infrastructures telles que les routes, l'aéroport, etc., à l'intérieur du pays.
L'un de ses autres grands défis, c'est la corruption. Où en est ce dossier?
C'est pas plus ni moins, c'est évidemment corrompu que dans des pays comme le Cameroun, le Congo, etc. C'est pas forcément là le problème de fond de la déperdition de l'aide internationale. C'est plutôt les questions de sécurité et au fond les groupes, les factions ethnico-régionales ou ethnico-militaires qui les sous-tendent. À mon avis, c'est plutôt là le problème de longue durée pour le Libéria.
Alors comment justement peut-elle reprendre la main? Comment peut-elle contrôler les différentes forces armées libériennes?
Ce qui est difficile, c'est que même si elle a eu autour de 60% aux élections, elle ne peut s'appuyer que sur l'extérieur. Et c'est ça qui est difficile. Alors on a procédé au désarmement. Il y a environ 5 000 anciens combattants qui ont été plus ou moins formés à divers métiers, en tout cas neutralisés, et qui maintenant sont un peu instables. La criminalité a repris et l'économie n'est pas à même de les absorber.
Est-elle vraiment si isolée que cela, malgré les 60% qu'elle a obtenus au second tour?
Il faut distinguer l'appui international qui est quasi unanime. Ça se traduit par la force militaire des Nations Unies, la MINUL, par des crédits internationaux, par l'appui de tout le système des Nations Unies jusqu'aux ONG. Et du point de vue intérieur, les gens, effectivement, ils ont comme repoussoir la guerre civile. Donc, Johnson Sirleaf, c'est pour le moment la clé de tout le système de démocratie, de post-conflit. Mais elle est minoritaire sociologiquement et un peu en porte-à-faux avec les factions militaires. Si vous voulez, c'est un peu comme un théâtre d'ombre. En apparence, au point de vue représentatif occidental, tout va bien. Et Johnson Sirleaf maîtrise la situation, mais pour combien de temps?